Alors nous deviendrons de véritables lumières dans ce monde de plus en plus plongé dans d'épaisses ténèbres morales et spirituelles. Voilà, sans plus tarder, nous allons incliner nos têtes dans la prière pour nous préparer à recevoir la parole de Dieu. Devant toi, nous nous tenons, une fois de plus, Seigneur, cette fois-ci, pour implorer ta grâce sur chacun de nous, alors que nous nous apprêtons, Seigneur, à recevoir ta parole. Aide-nous, ô Dieu, à être dans des bonnes dispositions de cœur, afin que lorsque ta parole sera proclamée, qu'elle puisse enfin être reçue dans nos cœurs, susciter en nous, Seigneur, des convictions qui nous amènent à nous tourner vers toi. Bénis ton serviteur, bénis chacun de nous. Que cette parole, Seigneur, soit proclamée avec puissance et sous l'onction de ton Saint-Esprit. Merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, nous allons acclamer la parole de Dieu. Bien. Eh bien, nous allons continuer avec notre enseignement, avec cette série de prédications sur les différents ennemis de notre foi. Le but, mes amis, que je poursuis et que le Seigneur poursuit, c'est de nous amener à réaliser que la chose la plus importante qui soit, c'est notre foi, et que cette foi est une réalité dynamique. Elle est appelée à grandir, à croître, mes amis, nous permettant ainsi à devenir grands aux yeux de Dieu, nous permettant ainsi à nous approprier des promesses de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons aujourd'hui donc aborder le troisième ennemi de la foi, à savoir l'enseignement des fausses doctrines comme ennemi de la foi. L'enseignement des fausses doctrines, ennemi de la foi. Nous allons pour cela revenir à l'épître de Paul à Timothée, la première, au chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. C'est le passage que nous avons lu la fois dernière et qui nous a permis de pouvoir recevoir la lumière sur le deuxième ennemi, à savoir la mauvaise conscience. Donc à Timothée, chapitre 1er, à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. Et puis ensuite, nous poursuivrons notre lecture au chapitre 4 de la même épître, les cinq premiers versets. Commençons au premier chapitre de 1 Timothée, à partir du verset 3. Nous lisons « Comme je t'y ai exhorté à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui favorisent des discussions plutôt que l'œuvre de Dieu et dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Quelques-uns, s'en étant détournés, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. C'est quand même terrible, hein? Et enfin, au chapitre 4, les cinq premiers versets très rapidement. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer chaud dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Or, tout ce que Dieu a créé est bon, rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne, il s'agit de nourriture, qu'on le prenne avec action de grâce, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Gloire au Seigneur. l'enseignement de fausses doctrines. Voilà un autre ennemi de la foi biblique. Voilà un autre ennemi, mes amis, que nous devons absolument combattre. Car tous ces faux enseignements conduisent à l'erreur, à l'égarement. Vous voyez? Et nous ne pouvons combattre l'égarement que par la connaissance, l'enseignement de la vérité. Donc, avec ce thème, nous abordons le troisième ennemi de la foi biblique, à savoir les fausses doctrines, à savoir les faux enseignements. Mais avant de développer notre sujet, j'aimerais revenir un peu et très brièvement sur ce que nous avons vu le dimanche dernier, à savoir le lien évident, le lien intime que la Bible établit entre la conscience et la foi. Voyez-vous, après avoir examiné ce thème à la lumière de la parole de Dieu la fois dernière, eh bien, nous sommes arrivés à cette conclusion. La bonne santé de notre foi dépend de la nature et de la qualité de notre conscience. Gloire au Seigneur. En d'autres mots, l'état de notre conscience va avoir des répercussions sur notre foi. Donc, la nature de notre conscience, mes amis, va affecter, d'une manière ou d'une autre, eh bien, la qualité de notre foi. Ceci veut dire que si nous voulons avoir une vie qui constitue un terreau favorable à la croissance de la foi, eh bien, nous n'avons pas d'autre choix que de veiller sur notre conscience, que de mettre notre conscience à l'abri du péché, de ce que la Bible appelle péché, et non pas ce que les hommes pensent être le péché. Non, ce que la Bible appelle un péché. Donc, la garder pure, la garder irréprochable, débarrassée des tant d'œuvres mortes, des tant d'œuvres de la chair. Alors, nous aurons une conscience, mes amis, des natures, à permettre à la foi, à notre foi, de grandir. Et gloire à Dieu. Mes amis, notre conscience ne doit pas être fondée sur la connaissance humaine du bien et du mal, connaissance qui, par ailleurs, est relative. D'une culture à l'autre, eh bien, les choses changent. Ce qui est bien ici ne l'est pas forcément ailleurs. Ce qui est mal ici peut être considéré comme bien ailleurs. Donc, notre conscience ne doit pas, mes amis, reposer sur la connaissance, sur la perception du mal, voyez-vous, mais elle doit être basée sur la personne de Dieu et sa parole infaillible. Alléluia. Gloire à Dieu. Cela signifie que notre conscience est appelée à ne pas être autonome dans le sens propre du terme, mais à être théonome, c'est-à-dire théos Dieu, nomos loi, c'est-à-dire fondée, basée sur Dieu et sur sa parole. Alléluia. C'est donc la présence du Saint-Esprit sous l'action de la parole de Dieu qui éclaire notre conscience, qui la vivifie, mes amis, qui la rend sensible, nous permettant ainsi à connaître et à comprendre ce qui est bien aux yeux de Dieu, ce qui est mal devant le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés, soyez métamorphosés, soyez transfigurés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Vous voyez, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Nous ne pouvons arriver à cette connaissance du bien et du mal, à ce qui est bon, à ce qui est agréable, à ce qui est parfait, que dans la mesure où notre intelligence est constamment renouvelée par le Saint-Esprit, et ce, au moyen de sa parole. C'est donc dans une conscience arrosée constamment par la présence du Seigneur et guidés par la parole de Dieu que nous pouvons conserver, comme nous l'avons vu, le mystère de la foi. Mes amis, selon la Bible, il y a donc un lien évident, vital, entre la conscience et la foi. Donc ça sert à rien de vouloir faire taire la voix de sa conscience lorsqu'elle vous interpelle. Voyez-vous, elle vous interpelle parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Plutôt que de l'étouffer, plutôt que de se lancer dans un activisme pour oublier tout cela, il serait sage et même juste aux yeux de Dieu de s'arrêter et d'écouter cette voix de la conscience et de se tourner vers le Seigneur pour se repentir sincèrement. Et gloire à Dieu. Une bonne conscience et une foi sincère vont toujours ensemble. Voyez-vous. Or, que nous dit la Bible à propos de la foi? Le même apôtre, dans son épître aux Romains, chapitre 10, verset 17, nous dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et gloire à Dieu. Si la foi vient de la parole du Seigneur, de l'écoute de la parole du Christ, cela veut dire que sans cette parole, il n'y a pas de foi. C'est là que nous devons distinguer la simple croyance religieuse, le simple assentiment intellectuel aux prescrits de la Bible avec la foi véritable. Cette foi dont nous avons besoin pour avancer dans la vie, dans notre marche avec le Seigneur. C'est donc cette parole du Seigneur qui génère en nous, qui suscite en nous la foi. Oh, alléluia. La foi. D'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux abonde dans le même sens. Lorsqu'il présente Jésus, Hébreux 12, verset 2, lorsqu'il présente Jésus comme étant l'auteur de la foi et aussi celui qui l'amène à la perfection. Littéralement, il nous présente Jésus comme étant, eh bien, l'initiateur de la foi et l'accomplisseur de la foi. Donc, sans Jésus et sans sa parole véritable, il n'y a pas de foi véritable. Donc, autant il y a un lien entre la conscience et la foi, autant nous voyons par la même parole qu'il y a un lien entre la foi et la parole de Dieu. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, un lien vital entre la conscience et la foi, mais aussi un lien intime, vital, entre la foi et la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Et à la lumière de cette vérité, c'est-à-dire à la lumière du lien qui est établi par la parole entre la foi et la parole du Christ, nous pouvons alors mieux apprécier, mes amis, ce que l'apôtre Paul demande à Timothée dans le premier passage que nous avons lu, mais aussi mieux apprécier la révélation du Saint-Esprit que nous avons lu au chapitre 4. Puisqu'il y a un lien entre la foi et l'enseignement de la parole, alors nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, demande à Timothée d'enjoindre à quelques-uns de ne pas enseigner, de ne pas propager d'autres enseignements. Il demande à Timothée d'enjoindre, de donner des injonctions à ces gens-là. Qu'est-ce que c'est une injonction? Une injonction, c'est un ordre précis, formel. Voyez, qui demande obéissance dans l'immédiat. Une injonction, c'est une sommation. Voyez-vous? Donc, il lui demande non pas d'aller essayer de trouver un terrain d'entente avec tous ces faux docteurs, ces pseudo-prophètes qui répandaient toutes sortes d'enseignements. Non, il lui demande d'enjoindre à ces gens-là de ne pas propager d'autres enseignements. C'est-à-dire de ne pas propager d'autres doctrines et d'éviter ou de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. Des choses qui suscitaient beaucoup de polémiques, beaucoup de controverses. Car non seulement ces enseignements, ces faux enseignements, qui étaient donc véhiculés dans l'église d'Éphèse, eh bien suscitaient des querelles, des conflits, des controverses, des polémiques stériles et creuses, mais surtout, surtout, ces enseignements, mes amis, avaient des effets destructeurs sur la foi des bien-aimés d'Éphèse. Et ceci était gravissime, voyez-vous. Paul se soucie, mes amis, de l'avancement de l'œuvre de Dieu dans l'église d'Éphèse. Paul se soucie de la croissance de l'église d'Éphèse. Et il dit à Timothée, cette œuvre de Dieu en vous, dans cette église, cette œuvre de Dieu à Éphèse, ne peut prospérer, ne peut avancer que dans la foi. Or, ces faux enseignements, ces fausses doctrines, eh bien, polluent la foi, dénaturent le message de la parole, torpillent la foi, la liquéfient, mes amis, et entraînent toutes sortes de dégâts dans l'église et parmi les bien-aimés d'Éphèse. Nous voyons donc que le problème de l'église d'Éphèse, c'est qu'elle faisait face à des faux docteurs, à des imposteurs corrompus, qui perturbaient les chrétiens, mes amis, par leurs fausses doctrines, des doctrines basées sur toutes sortes d'élucubrations théologiques, sur toutes sortes de spéculations vaines. On débattait sur les généalogies des patriarches. On essayait de comprendre certaines choses, eh bien, telle ou telle autre vérité que la Bible présente, mais qu'elle n'approfondit pas. Et on se retrouve à tenir des discours qui distraient les gens, qui suscitent plus des questions qu'autre chose. En d'autres mots, des discours, des enseignements qui n'allaient pas dans le sens de la croissance de l'Église, dans le sens propre du terme. Voyez-vous, des vaines spéculations, des croyances qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu. Quelques années auparavant, mes amis, l'apôtre Paul avait mis en garde, par une prophétie, l'église d'Éphèse. Il s'était adressé aux anciens d'Éphèse. Quelques années auparavant, dans Actes chapitre 20, versets 29 à 32, voilà ce que nous lisons. Paul convoque les anciens d'Éphèse, de cette église-là, pour le rejoindre à Milet, puisqu'il était en voyage, il partait, il descendait vers Jérusalem. Il dit ceci, « Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Donc, et que du milieu de vous s'élèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Parmi vous, eh bien, après mon départ, des loups s'introduiront, des loups redoutables, qui n'épargneront pas le troupeau du Seigneur par de faux enseignements, par de fausses doctrines, mais aussi du milieu de vous. Les loups viennent, mais il dit que même du milieu de vous, après mon départ, des gens se lèveront pour prononcer des paroles perverses, des paroles corrompues, pour donner des enseignements qui n'ont rien à voir avec ce que je vous ai communiqué. Des gens qui se lèveront et qui entraîneront les gens vers eux. Ça veut dire quoi? Ils détacheront les gens du Christ pour les amener vers eux. Ça a toujours été ainsi, encore aujourd'hui. Des gens qui, dans des églises qui s'élèvent, du jour au lendemain, ils prétendent qu'ils ont reçu une révélation, une nouvelle révélation, ils ont une nouvelle onction, et puis ils partent en entraînant des foules. Ça se passe encore aujourd'hui. Vous voyez, mes amis, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Voilà pourquoi nous devons faire attention, prendre au sérieux toutes ces mises en garde, tous ces avertissements de la parole de Dieu. Les faux enseignements sont un véritable cancer pour l'Église. Ne jouez pas avec ça. Ne dites pas, oui, mais après tout, je ne sens rien, je ne vois aucun danger. Attention, c'est tellement subtil que beaucoup ont fini par faire naufrage par rapport à leur foi. Voyez, pour Paul, il y a urgence. Voyez-vous, il faut arrêter cette vague hérétique. Il faut arrêter ce torrent de boue sectaire. C'est comme ça que les sectes naissent. Voyez-vous, quelqu'un se lève, il trouve que la parole qu'on donne n'est plus suffisante. Il faut une nouvelle révélation, voyez-vous. Et puis il prétend avoir reçu des révélations, et puis ensuite il part, il va créer une secte. C'est ça le problème de nos églises aujourd'hui. Les gens courent dans tous les sens. Les gens sont distraits par toutes sortes d'enseignements. Mon frère et ma sœur, ton âme n'a pas de prix. Ne te laisse pas manipuler par les enseignements de tel ou tel autre prophète. Nourris-toi de la Bible. Laisse-toi enseigner par la parole de Dieu. C'est la seule qui puisse te rendre sage à salut. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Pour Paul, il y a urgence. Il faut éradiquer, mes amis, cette gangrène, ce cancer que constituaient toutes ces fausses doctrines, tous ces enseignements d'inspiration démoniaque. Depuis sa naissance, dans le livre des Actes, mes amis, et tout au long de son histoire, et ce jusqu'à aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ a toujours fait face à toutes sortes d'attaques, des attaques extérieures, mais aussi des attaques intérieures, attaquées de l'extérieur par la persécution. Depuis que l'Église existe, elle a toujours connu la persécution, elle a toujours connu la tribulation, mes amis. Regardez, déjà à Jérusalem, où elle est née, là dans la chambre haute, quand cette Église a commencé sa marche triomphale, glorieuse ici-bas, eh bien l'enfer s'est levé pour attaquer l'Église par la persécution, pour arrêter, mes amis, l'Église dans sa croissance, dans sa vocation d'être la lumière du monde, d'être le sel de la terre. Le diable a suscité toutes sortes de persécutions, toutes sortes de tribulations. Qu'est-ce que l'Église de Jésus n'a-t-elle pas subi au cours de son histoire, encore aujourd'hui? Mais ces attaques sont aussi intérieures. Les faux enseignements, les fausses doctrines. Par leurs fausses doctrines, ce pseudo-docteur, mes amis, s'opposait à la vérité de l'Évangile, à la vérité de la parole telle que Paul l'avait proclamée, telle que le Seigneur, eh bien, l'a enseigné. Leurs enseignements hérétiques, mais aussi erratiques, étaient dénués de toute vraie valeur spirituelle. Et de par leur nature mauvaise, mensongère, eh bien, ces enseignements conduisaient les gens vers des tunnels ténébreux, obscurcissait l'intelligence, l'esprit des gens et les empêchait d'avancer dans la vie. Ils travaillaient donc à la destruction. Ils cherchaient à attirer l'attention des gens vers eux et non pas vers le Christ. Voyez-vous, regardez tous ces gens à gauche, à droite. Ils prétendent tous avoir reçu une révélation que même les apôtres n'avaient pas reçue. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Par leurs faux enseignements, ce loup redoutable, dénaturé, mes amis, le véritable message du Christ, galvaudé l'évangile du Christ, et se servait eux-mêmes plutôt que de servir le Seigneur. Leurs enseignements, mes amis, allaient à l'encontre des desseins de Dieu, du plan de Dieu pour l'église d'Éphèse et pour la ville même d'Éphèse. Ces gens s'attachaient donc à des fables et des généalogies sans fin qui suscitaient toutes sortes de controverses, toutes sortes de polémiques. Voyez-vous, ça entraînait les gens dans toutes sortes de questionnements, mais ça ne servait pas l'œuvre de Dieu. Des généalogies interminables. Il devait s'agir probablement des spéculations juives sur la généalogie des patriarches, voyez-vous, des personnes de la Bible. Voilà, des gens se posaient des questions du genre, par exemple. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui passent tout leur temps pour essayer de comprendre ce que la Bible n'a pas jugé bon de nous communiquer. Attention, la Bible nous donne quelques lumières, mais pas toute la lumière sur certains concepts biblique. Nous devons le savoir. Ce qu'il nous a révélé, c'est pour notre bien, pour notre salut. Mais il y a des choses cachées qui appartiennent au Seigneur. La Bible parle des anges, mais la Bible ne nous donne pas toute la hiérarchie angélique. Il ne nous donne pas le nombre d'archanges qu'il y a. Quels sont les différents ordres d'anges? Mais il y a des gens qui passent tout leur temps pour essayer de comprendre cela. Caïn, regardez, disent-ils. Caïn, le frère d'Abel, après avoir tué son frère, avait été chassé. Oui ou non? Vous êtes avec moi? Après avoir commis le meurtre, Caïn a été chassé. Il est parti habiter dans la terre, nous dit la Bible, dans la terre de Nod, à l'est d'Éden, du jardin d'Éden. Et là, la Bible nous dit simplement qu'il connut sa femme, elle devint enceinte et accoucha d'Enoch. Ben, la Bible ne nous dit pas d'où est venue cette femme. Parce que nous sommes encore au début, Il y avait qu'Adam et Ève. Ils ont eu Abel, ils ont eu Caïn. Caïn a tué Abel. Il y a eu d'autres enfants, certainement. Voilà. Alors, ils vont faire des recherches. Et le diable aime ça. Il va vous distraire. Vous allez aller partout. Il va même vous amener de la littérature apocryphe pour vous égarer. Car qu'est-ce que ça va vous apporter comme plus-value dans votre vie spirituelle, le fait de connaître quel était le nom et l'origine de la femme de Caïn? Ça ne vous amènera nulle part. Qui était sa femme? D'où venait-elle? La Bible nous l'a dit, c'est tout. Si l'histoire de Caïn est mentionnée, c'est pour nous montrer comment le mal a commencé à corrompre l'humanité. Comment le péché, mes amis, a commencé à se répandre et à faire des dégâts parmi les hommes. D'autres se focalisent, fantasment sur Melchisédek. Peut-être que vous avez déjà entendu, ou même vous avez lu, voyez. Qui était-il? Puisque la Bible nous dit, évidemment qu'il était d'abord roi de justice, mais de par son nom Melch, roi, Sédèque, justice, donc roi de justice, et puis aussi roi de Salem, Salem qui veut dire paix. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il était sans père, sans mère, sans généalogie. Donc on ne nous donne pas ses ancêtres. Alors qui était-il? La Bible va même plus loin en parlant de l'ordre selon Melchisédek. Oh! Quel est cet ordre-là? J'ai eu des discussions dans le passé, il y a beaucoup d'années d'ici, avec des gens qui passaient tout leur temps pour essayer de comprendre qui était ce personnage mystérieux. Voyez. On passe des jours, des mois, des années à tourner autour de ce personnage mystérieux. On va lire dans Genèse, ok, on va dans le livre, on va dans le psaume, oui, on parle de lui, l'ordre selon Melchisédek, on va dans l'épître aux Hébreux, et puis qui était, vous passez tout votre temps pour rien, mes amis. Connaître qui il était n'apporterait aucune plus-value à votre marche avec Dieu. Ça ne va pas nourrir votre foi, car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des choses qui nous échappent dans la parole. Ne soyez pas de ceux qui ont des réponses à tout. Il y a des mystères. Voyez-vous, que nous trouvons dans l'Ancien Testament? Des mots ou un mot que la Bible utilise une seule fois. Vous savez, si un mot est utilisé à plusieurs reprises et dans plusieurs contextes, eh bien, il y a moyen d'avoir un tout petit peu une idée sur son sens. Si vous n'avez pas compris ce mot dans tel passage, dans tel contexte, vous allez dans un autre contexte où ce mot apparaît de manière claire. À ce moment-là, vous tirez la conclusion que ce mot veut dire ceci ou cela. Mais il y a des mots, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, qui n'apparaissent qu'une fois. Ce qu'on appelle en termes techniques les apax. Une seule fois. Alors un mot comme ça, d'abord ça nous vient de l'hébreu, de l'ancien hébreu, même eux-mêmes ne savent plus ce que ça voulait dire. Il y a des conjectures, on essaye un tout petit peu de conjecturer sans plus. Alors on va passer toute sa vie pour essayer de découvrir, aller fouiner dans les ténèbres à la recherche d'une certaine compréhension. Ça reste un personnage mystérieux. Il nous est présenté comme étant sacrificateur du Dieu très haut. En quoi ça va vous amener à grandir dans la foi, puisque la Bible n'a pas jugé bon de nous donner tant de lumière sur ce personnage qui reste somme toute mystérieux. On veut connaître les différents ordres d'anges. Combien y a-t-il d'archanges? Oui, Michel, voilà, voyez. Vous savez, la Bible nous dit, quand Jésus, toi, a été créé dans le ciel et sur la terre. Et la Bible d'ajouter ce qui est visible et ce qui est invisible. Et puis de donner toute une liste, voilà, de choses invisibles, à savoir trône au pluriel, souveraineté au pluriel, principauté au pluriel, pouvoir au pluriel. Ah. Alors, il y en a qui veulent comprendre ces principautés. Vous savez, une principauté, c'est le domaine d'un prince, oui ou non? Alors, quelles sont ces principautés? Qui sont les princes qui sont à la tête de ces principautés? Nous connaissons celui qui est à la tête de la principauté de Monaco. Nous le connaissons, n'est-ce pas? Alors, quelles sont ces principautés? Alors, ils passent tout leur temps à aller chercher, fouiner un peu partout, alors que la Bible nous dit simplement des souverainetés, des autorités, des pouvoirs, des trônes. Oui, il y a des choses qui nous échappent. Il y a des gloires célestes, mes amis, qui sont là, que nous ignorons. Ce que Dieu nous a donné, c'est pour notre salut, pour nous permettre de le connaître et de marcher avec lui. Mais quand nous aurons quitté cette terre, quand nous aurons quitté ce corps, et que nous serons partis auprès de lui, alors nous comprendrons, alléluia, nous connaîtrons des choses qui jusque-là, ben, étaient des mystères cachés. Quel est le sexe des anges? C'est quand même terrible, hein? Voilà. Vous passez votre temps pour essayer de savoir. Les gens rêvent beaucoup, hein? Vous avez rêvé un ange sous forme d'un homme. Vous vous réveillez le matin, oh, c'est fini, Dieu m'a révélé. Les anges, ce sont des hommes, ce ne sont pas des femmes. Et vous bâtissez tout un enseignement. Voilà. Et quand vous enseignez, vous donnez l'impression que vous, non seulement vous avez la connaissance, mais vous êtes même l'illustration du savoir parfait. Regardez tous ces gens, ils parlent, hein, avec arrogance, avec suffisance. Les rêves. Attention. On peut rêver n'importe quoi. Durant mon bref séjour en Belgique, je suis tombé sur un article, sur une histoire qui est arrivée, pour ceux qui connaissent la Belgique, à Morlaan, oui, en Wallonie, l'histoire d'un homme poursuivi devant un tribunal correctionnel pour une scène de violence envers son épouse. Qu'est-ce qui s'était passé? Cet homme avait bu, comme d'habitude, n'est-ce pas? Et après avoir bu, après avoir pris de l'alcool, il s'assoit dans son canapé et il finit par s'assoupir. Il dort. Et pendant qu'il dormait, il fait un rêve. Et dans ce rêve, que voit-il? Il voit que sa femme avait un amant. Attention, c'est vrai. Il voit que sa femme a un amant, que sa femme le trompait dans son rêve. Et quand il se réveille, il est convaincu de son rêve. Il se tourne vers sa femme. Pour lui, sa femme le trompe parce qu'il a rêvé. Il lui colle une gifle et la menace avec un couteau. Et l'affaire a fini par arriver au tribunal, hein. Vous voyez les rêves? Attention. Oh, j'ai rêvé un ange avec ceci, avec cela, vous bâtissez et vous développez tout un enseignement. Pas du tout, mes amis. S'il y a une chose dont vous devez être sûr, une chose pour vous rassurer avant de terminer, c'est qu'il n'y aura pas d'examen d'entrée au ciel. Il n'y a personne qui dit amen. Il n'y aura pas d'examen d'entrée. Le Seigneur ne se tiendra pas ce jour-là avec des feuilles d'examen. Ah tiens, tu viens d'arriver, assis-toi là. Voilà. Il te remettra une feuille d'examen avec des questions. Qui est Melchisédek? Voilà. Combien d'archanges y a-t-il dans mon royaume? Non! Nous ne sommes pas sauvés par la connaissance. Nous sommes sauvés parce que Jésus est dans notre vie. Nous sommes sauvés parce que nous avons mis notre foi, notre confiance dans la personne de Jésus, dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Et pour avancer, le même Seigneur nous a donné des enseignements qui nous aide à grandir. Et dans ces enseignements, il y a des choses qui nous échappent. Alors, reconnaissons-le, nous sommes limités. Notre intelligence est limitée. Nous ne pouvons pas tout comprendre. Mais un jour viendra où nous comprendrons. Alléluia. Le but suprême de la connaissance biblique n'est pas la connaissance en elle-même, hein, mais une transformation, mais une métamorphose intérieure. Par l'action du Saint-Esprit, alléluia. Une action intérieure qui s'exprime par une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie marquée par la foi, par la confiance. Voilà ce que Dieu attend de nous. Dormez en paix. Vous n'aurez pas une interrogation sur Melchisédek. Dieu ne vous demandera pas quelle était l'origine de la femme de Caïn. Qui étaient ses parents? Il n'y a pas de généalogie. Eh bien, même les généalogies, elles ne sont pas là pour enrichir développer notre cerveau au point de se retrouver avec un cerveau à plusieurs étages. Les généalogies sont là avec un but bien précis. Voyez-vous? Et d'ailleurs, il faut faire attention. En hébreu, quand on dit tel engendrant tel, ce n'est pas forcément l'enfant. On peut dire, vous avez le grand-père, il engendra 3-4 arrière-enfants. Voilà. Et nous, on peut croire que non, ce sont ses enfants. Non, mes amis, et puis, ne vous cassez pas, n'essayez pas de mémoriser, pensant qu'en ce jour-là, quand vous présenterez devant la porte du ciel, le Seigneur vous demandera, quelle est ma généalogie dans Matthieu? Ça commence par quoi? Seigneur, pardon, je n'avais pas eu l'occasion de lire tout. Voilà. Ok, mais dans Luc... Non, il nous accueillera dans son ciel parce que nous aurons cru en lui. Gloire à Dieu. Nous sommes sauvés parce que Jésus est en nous. Nous sommes des enfants de Dieu parce que nous sommes en Christ. Oh, alléluia. Et nous marchons par sa parole. En conclusion, nous devons nous imprégner de l'enseignement de la Bible, mes amis, de la doctrine des apôtres. Contentons-nous de ce que les apôtres nous ont laissé. Il y a tout dans la Bible, mes amis. Il y a tout. Alors, éloignons-nous de tous ces enseignements qui sont répandus, ça et là. Je reviendrai encore le dimanche prochain sur ce thème. Et là, nous allons approfondir le chapitre 4 à propos de ce que le Saint-Esprit dit expressément concernant les temps, cette période de l'histoire que la Bible qualifie de temps de la fin. Mais pour aujourd'hui, eh bien, sachons que Dieu attend de nous que nous puissions nous attacher corps, âme et esprit à l'enseignement que nous trouvons dans sa parole. Tout en sachant qu'il y a des choses dans sa parole qui sont là et que nous ne comprendrons jamais. Nous pourrions nous lancer dans des longues études des théologies ou des philologies bibliques sans arriver un jour à comprendre ceci ou cela. Voyez-vous, la Bible parle des anges, la Bible parle des archanges, des chérubins, des séraphins. Alors si vous voulez savoir, mais quel est le parti politique de ces chérubins, vous allez vous perdre. Vous allez faire des insomnies, même tomber malade. Voyez, vous pouvez disjoncter mentalement parlant, hein, à vouloir comprendre des choses qui sont au-delà de la compréhension humaine, vous risquez un jour de vous retrouver en psychiatrie. Alors, avant que cela ne vous arrive, tournez-vous vers le Seigneur et rendez-lui grâce pour ce qu'il vous a laissé dans sa parole. Alléluia. Dans l'enseignement des apôtres, inclinons nos têtes dans la prière. Gloire à Dieu. Nous voulons te remercier, notre Père, pour ta parole. Une fois de plus, Seigneur, tu nous mets en garde contre l'enseignement basé sur de fausses doctrines. Une fois de plus, Seigneur, tu nous mets en garde contre toutes ces choses inutiles qui suscitent plus de polémiques, qui suscitent plus de controverses, qui suscitent plus de questions et qui n'aident pas, Seigneur, ou qui ne contribuent pas à l'avancement de ton œuvre. Car ton œuvre avance dans la foi. Il n'y a que ce qui vient de toi. Et tout ce dont nous avons besoin, tu nous l'as donné dans ta parole et par ta parole. Alors aide-nous à imprégner nos vies des enseignements qui viennent et qui restent fondés sur la doctrine des apôtres. Seigneur, merci. Merci pour tout. Nous voulons te prier également, Seigneur, pour ce moment que nous voulons te consacrer, pour les offrandes, Seigneur, pour la collecte des dîmes et de toute autre libéralité. Quelle joie, quel bonheur pour nous de pouvoir, Seigneur, soutenir ton œuvre avec le produit de notre travail, de nos affaires. Merci pour cette joie. Comme tu le dis toi-même, Seigneur, il y a plus de joie.